Vous écoutez RTL. Pour satisfaire votre curiosité,
les abeilles.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
Les insectes sont nos amis.
Les inconnus qui chantent les insectes et Bourvil, il faut jamais perdre, laisser passer une occasion d'écouter les abeilles de Bourvil parce que ça met de bonne humeur pour toute la journée. Bonjour François Lasserre.
Bonjour.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes entomologiste, spécialiste des insectes, l'un des sociétaires de la curiosité. On ne compte plus vos passages dans l'émission, ça doit prouver que vous n'êtes pas trop mauvais. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour fêter ce
réveil. Oui, parce qu'il accepte de revenir quand même.
Nous, on fait ce qu'on peut. Pour fêter ce réveil de la nature, c'est le printemps, les insectes ressortent. Mais alors, ils ont fait quoi pendant l'hiver? Ils dormaient?
Alors c'est à se demander, c'est vrai qu'on n'en voit plus, on n'y pense plus. Quand ils ne sont plus là, c'est drôle, on ne pense plus à eux.
Oui.
Quand ils sont là, ils nous embêtent, et puis quand ils ne sont plus là, mais en fait, ils sont toujours là autour de nous, sous différents états. Il y en a qui sont que sous forme d'œufs, comme par exemple les mantes religieuses. En hiver, il n'y a plus une mante religieuse, il n'y a que des œufs de mante religieuse. Donc la mante religieuse, en hiver, c'est un œuf,
ouais.
Et qui est bien caché à l'abri.
Caché, où ça? Sous une écorce dans...
Alors les mantes religieuses font une espèce de grosse oothèque. C'est un endroit où on range ses œufs.
Ouais.
Elle fait une espèce de mucus, de mousse qui va durcir et elle a environ 200 œufs au pied d'une touffe d'herbe. Et on a même plongé cette oothèque dans de l'eau bouillante à 90 degrés et en la ressortant, les œufs, les bébés sont sortis malgré tout. Donc ça veut dire que ça la protège extrêmement bien des températures extérieures.
Donc il y a les mantes religieuses qui sont dans des oothèques. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme insectes et dans quel type d'habitat pour l'hiver?
Alors ils se cachent, beaucoup se cachent dans des anfractuosités ou chez vous parfois, parce qu'ils prennent chez vous pour une grotte, comme par exemple les coccinelles ou certaines punaises,
oui.
Se disent « Waouh, une super grotte !» Et donc je vais m'y installer pour tout l'hiver. Et une fois dedans, la grotte est vraiment moins sympa, parce qu'elle est trop chaude. Chez vous, c'est trop chaud et ça l'empêche de se mettre en diapause. C'est un peu le mot-clé pour l'hiver chez les insectes.
La diapause.
Se mettre en diapause, c'est une espèce de veille pendant laquelle on dépense aucune énergie.
C'est-à-dire que ces insectes, François Lasserre, qui ont élu domicile chez nous, vont disparaître? L'hiver vont mourir
si elles peuvent pas se mettre en diapause, toutes ces bêtes, elles vont dépenser trop d'énergie et donc elles pourront pas durer tout l'hiver. Et donc elles vont mourir. Il faut vraiment se mettre en diapause, ça permet de conserver de l'énergie et au moment du printemps, ressortir et se reproduire.
Alors justement, c'est quoi le signal? Le réveil des températures, c'est quoi? Sidonie allait dire, si vous le regardez sur RTL.fr, elle allait dire quelque chose.
Ben non, vous auriez pu faire une petite diapause cet hiver, Thomas.
C'est d'accord, c'était
pour 2020.
C'était dommage de se priver de cette vanne. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, François Lasserre? C'est quoi? C'est la hausse des températures? Qu'est-ce qui déclenche le réveil des insectes?
Alors, c'est deux choses principales. C'est la longueur de la durée du jour, la photopériode et évidemment la température. Et donc, c'est une espèce de signal. Et comme de toute manière, toute la nature se réveille, y compris les fleurs. Et donc, les premières fleurs ont besoin des premiers pollinisateurs. Et donc, parce qu'il y a des fleurs qui ne s'ouvrent que maintenant. Et donc, elles ont besoin de leurs pollinisateurs et inversement.
Les insectes
inversement, les fleurs et les insectes ont coévolué ensemble et donc ils se sont synchronisés.
Et les oiseaux aussi, pardon Sidonie, je sors de ma diapose, mais les oiseaux aussi.
Ils sont bien réveillés là.
Sans les insectes, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les oiseaux?
Alors les oiseaux sont en train de s'accoupler, parader, et bientôt ils vont pondre et les bébés vont sortir. Et c'est vrai que les bébés de beaucoup d'oiseaux, et surtout tous ces petits oiseaux chanteurs qu'on a dans les jardins, tous les petits qui chantent beaucoup, sont quasiment à 100% insectivores quand ils sont enfants. Et donc toutes les mésanges que vous voyez vont aller chercher tous ces insectes, notamment les premiers à sortir au printemps.
Qu'est-ce qu'ils font tous ces insectes qui se réveillent, François Lasserre? Ils ont la dalle, ils ont envie de voir du pays, ils veulent se reproduire, qu'est-ce qui les anime?
Alors ils ont tous la dalle quasiment, c'est vraiment la première chose qu'ils vont faire au sortir de l'hiver, c'est reprendre de l'énergie, s'hydrater, manger. Et puis parfois certains arrivent de très très loin et donc ils vont aussi avoir besoin de s'alimenter. Il y a beaucoup de papillons que vous voyez arriver en ce moment, enfin que vous voyez en ce moment dans les jardins, qui en fait arrivent d'Afrique. Soit d'Afrique du Nord, soit d'Afrique noire, beaucoup plus bas. Ça dépend des espèces.
On les voit arriver de plus en plus tôt, François Lasserre, ces papillons, en raison du réchauffement climatique?
Alors, certaines espèces arrivent un peu plus tôt et certains restent dans le sud de la France. Il y avait des papillons qui migraient tous les ans en Afrique et qui, depuis que c'est un peu plus chaud, ils restent en France. Ils s'adaptent.
François Lasserre, vous publiez entre autres Les super pouvoirs des petites bêtes, c'est chez Delachaux et Niesli. Puis il y a aussi ce livre pour les enfants, nos voisins, les insectes. Un livre à flap, ça veut dire qu'il y a plein de petites caches qu'on peut ouvrir pour découvrir les dessins des insectes à l'intérieur.
Vous c'est bien pour se familiariser tôt avec les insectes et pas avoir des phobies comme moi par exemple.
Ben oui, moi j'ai la phobie des oiseaux, c'est autre chose.
Ben moi des insectes.
Bon ben voilà, on est bien partis tous les deux. On va rester dans notre studio tranquille, parce qu'heureusement on n'a pas la phobie de la radio et de la couleur rouge. Tiens, on va parler d'une autre couleur dans un instant, un très joli jaune-vert que l'on remarque en ce moment. Mais quelle espèce porte cette robe? Réponse à venir sur RTL.
Votre Majesté, ouvrez les yeux! On peut envoyer l'un de nous chercher de l'aide!
Oh RTL.
Jamais nous n'avons quitté!
Je le confie!
Il y a des oiseaux, des serpents et des insectes plus gros que nous!
Exactement! De plus gros insectes! Allons chercher des pros qui combattront à notre place!
Sidonie Bonnec.
Il me semble que parmi les fourmis, certaines ne savent pas tenir leur place.
Thomas Hugues.
Non, mais...
Nous reviendrons à la fin de la saison.
La curiosité est un vilain défaut.
Et oui, c'est le printemps et la nature se réveille, et notamment les insectes. Et grâce à notre invité, l'entomologiste François Lasserre, on a appris que c'est à la fois la hausse des températures et puis aussi l'allongement de la durée du jour qui vont conditionner ce réveil des insectes, et que ce réveil coïncide avec celui des plantes et avec la saison des amours des oiseaux. Et c'est là qu'on se dit que la nature est vraiment bien faite. François Lasserre, ces insectes qui vont réapparaître comme ça au printemps, en ce moment même, est-ce qu'ils sont déjà adultes?
Alors, pas tous. Pas tous, loin de là. Il y en a plutôt moins qui sont sous leur forme adulte. Ils vont plutôt hiverner sous forme d'œufs, de larves ou de chrysalides dans leur cocon. Et certains sont adultes. Et c'est ceux-là qu'on va voir en premier parce qu'ils sont déjà opérationnels. Ils ont leurs ailes. En fait, il n'y a que les adultes qui ont des ailes chez les insectes.
Ouais.
Et donc, ceux que vous voyez voler sont forcément adultes. Et si vous les voyez voler en ce moment, ça veut dire qu'ils ont passé l'hiver sous leur forme adulte.
Ah, d'accord.
Donc,
ils ont dormi adultes, quoi.
Et ils ont dormi adultes. Alors, ils sont un peu moins nombreux. Et parmi eux, il y a un papillon dont vous vouliez pas me parler d'un...
Le papillon citron, c'est celui-là?
Ah, voilà, c'est ça. Le jaune et vert. Le jaune et vert. Alors lui, on aime bien en parler parce que, je dis on, les amis de la nature, parce que il est assez grand quand même, et puis il est vraiment très jaune, donc on le remarque très facilement. Et donc tout le monde peut le remarquer. Et lui, il était caché dans votre jardin, dans une touffe de feuilles de lierre, par exemple, de feuilles qui ne tombent pas, vivaces. Juste au milieu de la touffe, parfois avec des copains ou seul, et il ne bougeait pas.
Donc à ce moment-là, il est de quelle couleur? Il est vert pour se confondre avec la plante.
Exactement. Le verso est plutôt vert avec des nervures. C'est vraiment, il est tel une feuille, donc on le voit pas beaucoup. Et puis sur le recto, il est vraiment jaune, jaune. Citron.
Ça lui arrive d'ouvrir un peu l'œil, le papillon citron, pendant l'hiver pour voir ce qui se passe, ou alors vraiment il dort très très bien?
Non, alors il est pas très, il a pas de sommeil très profond, enfin si je puis dire. Et dès qu'il fait un peu beau ou suffisamment chaud, même en plein au mois de janvier ou de décembre, il peut se réveiller et aller s'hydrater un petit peu. Il est vraiment assez, il a un réveil.
Et il retourne dormir après.
Oui, il a un sommeil assez léger. Et celui-là, il est pas très caché. Vous voyez, quand vous êtes dans votre touffe de feuilles de lierre, vous êtes quand même proche de la température extérieure. Vous n'êtes pas dans une cavité, dans une grotte. Et du coup, alors les entomologistes aiment bien faire cette blague, il est parfois comme un citron givré, parce que vraiment, il peut être complètement, quasiment recouvert de gel. Ouais. Il a plus d'antigel que d'autres papillons. Il a moins besoin de se cacher, celui-là.
Ils ont de l'antigel, les papillons ?
Beaucoup d'insectes et d'autres animaux ont des antigels qui les empêchent de geler, parce que certaines bêtes peuvent même se faire prendre dans la glace. Et donc, ils ont des protéines à l'intérieur du corps qui empêchent le gel de casser leurs cellules.
Ce papillon citron, François Lasserre, il va vivre combien de temps une fois qu'il commence à se balader comme ça au printemps? Il en a pour quelques mois?
Alors, c'est le papillon, quand vous voyez un papillon citron, en fait, vous pouvez vous dire que vous êtes en présence quasiment d'un vieillard, du plus vieil insecte de France, quasiment. En tout cas sous sa forme adulte, parce qu'il vit entre 10 à 14 mois adulte, ce qui est très très long pour un insecte, c'est souvent quelques jours, quelques semaines. Et c'est parce qu'il s'est transformé en adulte l'année dernière, au mois de juillet ou août, et c'est cet adulte-là qui va passer tout l'hiver caché dans sa touffe de feuilles et sortir au printemps. Et alors, en revanche, après, il va mourir rapidement, et ce seront ses enfants que vous reverrez en juillet,
donc,
août.
Ça fait 14 mois, la diapause, le repos inclus, c'est
voilà,
ça
tout compris.
Tout compris, d'accord.
Mais alors, ça c'est le plus vieux. Et l'espérance de vie la plus courte pour un insecte, c'est quoi? C'est quelques heures ou c'est quand même quelques jours?
Non, c'est quelques jours. Ça doit être 7 jours. Mais quand on parle de cycle de vie, c'est vraiment de l'œuf au moment de la ponte jusqu'à la mort de l'adulte et le nouvel œuf. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est un cycle. C'est vraiment 7 jours environ le plus petit autour de nous. C'est des petits moucherons, voire une mouche domestique peut le faire très rapidement. Ouais. Et puis, vous alliez me demander lequel vit le plus longtemps.
Bah oui, bon,
en tout cas, j'ai envie de vous le dire parce que.
En dehors du papillon citron.
Alors, c'est adulte. C'est quand il est adulte. Et le record de longévité connu à ce jour, c'est 53 ans.
Pour un insecte.
Mais alors, c'est 53 ans sous forme de larve, parce qu'ils ne vivent pas très longtemps quand ils sont adultes. C'est souvent œufs, larves. Et donc, c'est 53 ans sous forme de larve.
Passer autant d'années dans une larve?
Oui. Et en fait, sa larve vit dans du bois, qui est un peu pauvre en nutriments, et elle passe un temps fou dans le bois à vivre pendant 53 ans. C'est le record, mais en France, vous avez des insectes comme par exemple le lucane cerf-volant avec ses grandes cornes, les grandes mandibules qui font, qui font penser à un cerf qui vole, peut vivre 3-4 ans sous terre, enfin dans le bois mort. C'est pareil, c'est la larve qui vit 3 à 4 ans.
Mais François Lasserre, qu'est-ce qui fait que c'est le bon printemps? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il ne s'est pas réveillé l'an dernier ou encore l'année précédente?
C'est une bonne question. Il peut sauter une année si les conditions climatiques, si par exemple il a fait une température idéale pour lui, que la nourriture était particulièrement riche, il peut faire 3 ans plutôt que 4. D'accord. En revanche, il est quand même programmé génétiquement pour faire au moins 3, 4, 5 ans.
Il y a d'autres insectes qui apparaissent en ce moment, les gendarmes par exemple. Qui passent l'hiver en groupe. Merci François Touchard. Collés les uns aux autres. On découvre, tiens, pourquoi ça dans un instant sur la table. Mais aussi, on va.
Cruchot,
on va vous présenter de belles dames. Cruchot, calmez-vous, Thomas. Des belles dames sont des insectes.
Ah, c'est des papillons, pardon.
Aimez-vous les insectes? Pour une raison obscure, je suis persuadé que la plupart d'entre vous diront non. Mais bon, quelles pourraient être les raisons d'aimer de telles créatures?
La curiosité est un vilain défaut. Sur RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et toujours avec nous l'entomologiste François Lasserre qui nous raconte comment les insectes se réveillent les uns après les autres avec le printemps et donc sortent de cette diapause. C'est vraiment le mot qu'on aura appris aujourd'hui puisqu'on le répète toutes les trois phrases. Est-ce qu'il y a des... On vit les uns et les autres ici en ville. Est-ce qu'il y a des insectes qui sont mieux adaptés à nos environnements urbains et qui réapparaissent là eux aussi en ce moment?
Oui, alors si on est un peu attentif, c'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes en ville, c'est toujours les mêmes conditions de vie, la température est un peu constante, il y a une certaine qualité de nourriture, il y a certains habitats qui sont très typiques aux villes, et donc on va plutôt trouver toujours les mêmes insectes, notamment les gendarmes.
Ça ressemble un peu à une coccinelle
Alors on les repère facilement parce qu'ils sont rouges et noirs comme les coccinelles, ils sont un peu plus allongés et ce sont des punaises sans ailes. Enfin, disons avec des ailes atrophiées qui ne leur permettent pas de voler. Donc elles sont toujours au sol. Et puis comme tous les insectes qui sont rouges et noirs, ils sont un peu plus à l'aise vis-à-vis des prédateurs, donc qu'on pourrait être, et donc ils s'exposent. En fait, les prédateurs, quand ils voient un truc rouge et noir, quand ils remarquent un truc, ils se méfient.
Ils pensent à quoi? Poison?
Ils pensent à poison.
Ah oui?
Alors, sauf ici, je vois qu'il y a du rouge partout, mais on est attiré par RTL, évidemment. Mais
ça veut dire que la coccinelle aussi est empoisonnante?
Exactement, la coccinelle, d'une certaine façon, signale au prédateur qu'elle est vraiment mauvaise. Et d'ailleurs, quand un prédateur se met une coccinelle dans le bec, par exemple, comme un oiseau, il va la recracher immédiatement parce qu'elle est vraiment
Mais comment ça s'explique, ça? Le rouge et le symbole chimique d'un composé...
Ça s'appelle... Oui, tout à fait. Ouais. Alors non, c'est-à-dire que le poison, c'est l'évolution a apporté au poison une couleur, en quelque sorte. Il y a aussi aux insectes qui piquent sont rayés jaune et noir. Et donc, les prédateurs s'en souviennent. Et du coup, quand ils se font piquer une fois, ils vont plus se rapprocher d'une bête qui est rayée jaune et noire. Donc ça fonctionne d'un point de vue de l'évolution.
Et si Denis disait tout à l'heure que les gendarmes passaient l'hiver en groupe, là, collés les uns aux autres, c'est pour ça ou c'est pour se tenir chaud?
Alors, dans des gendarmeries, vous voulez dire? Parce que ça peut s'appeler des gendarmeries. Quand vous voyez des gendarmes en groupe l'hiver, vous pouvez appeler ça une gendarmerie. D'accord. Alors, ça ne leur permet pas d'avoir chaud, parce que les insectes ont le sang à température ambiante. Donc, quand il fait froid, ils ont le sang froid. Quand il fait chaud, ils ont le sang chaud. C'est surtout, ça permet plutôt d'éloigner, disons, de faire encore davantage peur aux prédateurs. Plus on est groupé, moins le prédateur a envie de s'aventurer. Et puis, voilà, et en plus, ils sont rouges. Mais c'est vraiment ceux qu'on va repérer, parce que eux, ils sont tranquilles grâce à leur couleur.
François Lasserre, il y a une autre espèce d'insectes qu'on voit apparaître au début du printemps, ce sont les belles dames. Vous nous racontez, vous nous décrivez ces insectes ?
Alors, il n'est pas facile, mais dans les grands papillons qu'on va remarquer, où tout le monde dit « Ah tiens, là, on aime les insectes », dans ce cas-là, il est un peu rouge et noir, bariolé, il est assez grand quand même, le papillon
quand
belle dame.
Quand vous dites assez grand, là, vous faites un peu, je sais pas...
Ben, disons qu'il doit faire...
la taille d'une main.
Entre 5 et 10 cm ouais. d'envergure.
Ah oui, c'est assez
au
grand,
moins,
ouais.
Au moins, oui, presque. C'est un papillon de taille moyenne.
Et,
oui.
Et il fait, les belles dames font partie de ces papillons là, migrateurs dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà, les belles dames qu'on voit là en train d'arriver viennent d'Afrique. C'est un des papillons, un des insectes qui vole le mieux au monde. Et d'ailleurs, grâce à cette capacité à voler, il vit quasiment sur la terre entière. C'est-à-dire que ses grands vols l'ont emmené partout. Ouais. Et certains individus peuvent faire 5000 km. Donc ils peuvent arriver d'assez loin. Et des entomologistes ont même calculé qu'entre l'Afrique du Nord et l'Angleterre, ça peut leur prendre que 3 jours.
Mais comment ils font ? Ils se laissent porter par le vent ?
Exactement, ils se font aider. Ils volent très très bien. Ils sont très adaptés au vol. Certains migrateurs vont voler vraiment au ras du sol pour éviter les grands vents. D'autres, au contraire, vont être portés par les vents dominants. Et ils vont assez vite. De toute manière, ils ne vivent pas très longtemps. Ils vivent un mois max. Donc de toute manière, il faut tout faire dans leur vie d'adulte. C'est-à-dire migrer, s'accoupler, manger, pondre, etc.
François Lasserre, vous publiez « Les super pouvoirs des petites bêtes », c'est aux éditions de Lachaud et Niestlé, et on y découvre l'invention des espèces pour survivre, et ça c'est absolument incroyable, il y a des exemples de... on va en prendre un directement, c'est celui des abeilles osmicornues, j'espère que je prononce bien. Alors, les reines pondent, jusqu'à là, bon, tout est à peu près normal, c'est classique, mais pas n'importe comment, et c'est là que c'est intéressant.
Alors, exactement. Alors, on l'appelle une reine, mais en fait, l'osmicornue, ça fait partie de ces petites abeilles solitaires et sauvages qu'on aime bien défendre, nous, les entomologistes, pour dire qu'il n'y a pas que l'abeille domestique qui existe dans la nature. Il y a plus de 1000 sortes d'abeilles en France. Et une qui vient jusque dans nos maisons, jusque dans les petits trous des fenêtres, par exemple, qui vont les boucher avec de la terre, s'appelle les osmicornues. Mmh. Alors, elles ont 2 petites cornes. Elles ressemblent à des petits bourdons. Les bourdons sont aussi des abeilles. C'est des abeilles assez petites, noires à l'avant, rouges à l'arrière. Et qu'on peut vraiment avoir facilement, surtout quand on met un nichoir dans son jardin. C'est les premières qui vont se jeter sur les nichoirs. Et en ce moment, elles sont toutes en train de sortir. Et c'est le seul moment de l'année où on va pouvoir voir les adultes. Le reste du temps, les enfants, les larves sont à l'intérieur du nid.
Et alors donc, la ponte, ça se fait dans un ordre particulier, c'est
alors,
ça ?
Alors c'est tout à fait programmé, oui. Elles vont chercher une anfractuosité, par exemple un trou dans du bois mort ou une tige de bambou vide, par exemple. Mmh. Et les femelles vont commencer à rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur d'une tige d'environ 10 cm, elles vont faire 5 chambres d'enfants. Donc il y aura 5 enfants dans un trou, par exemple.
Ouais.
Et elles vont d'abord mettre les filles au fond, parce que les filles ont un temps de développement un peu plus long. Et du coup, ce serait dommage d'arriver et d'être empêchées de sortir par les autres. Donc elle met les filles au fond et les garçons devant.
Donc les garçons sortent les premiers.
Et les garçons sortent les premiers. Mais, et alors vous allez me dire, mais comment elles font ? Alors, alors oui, ça c'est sûr que... Alors je reviens un petit grand nain, mais comment font-elles pour mettre les filles à l'arrière ?
Eh bien ça, vous allez nous le dire dans un instant, François Lasserre.
Ah mince.
Ah ben oui.
Ah ben non, parce qu'il y a une petite diapo,
okay,
on revient.
Parfait, une quiescence.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et dans une minute, on vous embarque direction le Japon qui entre dans une nouvelle ère impériale. Vous allez voir, dépaysement garanti. Mais d'abord, on termine notre histoire d'insectes avec ce printemps, ce réveil des insectes au printemps. Toujours avec nous, François Lasserre. Et donc, vous racontiez comment ces abeilles osmicornues pondent d'abord les femelles avant les mâles. Donc, elles créent dans une espèce de tige là, 5 chambres d'enfants. Imaginons qu'elles placent 3 femelles et 2 mâles. Qu'est-ce qui se passe après alors ?
Alors, elle a, en fait, quand les abeilles maîtrisent le sexe de leur progéniture, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'un œuf fécondé donnera une femelle et un œuf non fécondé, sans spermatozoïde, donnera un mâle. Et toutes les femelles abeilles ont une spermathèque dans laquelle elles stockent le sperme et elles ont une espèce de petit robinet, enfin, disons un muscle à l'entrée de la spermathèque et donc elles peuvent décider de mettre du sperme ou non.
Ah, c'est elles qui décident.
C'est elles qui décident. Donc les œufs du fond, quand ils passent devant la spermathèque, hop, elle ouvre le robinet, il y a un petit peu de sperme, il est fécondé, il va au fond du nid.
Ouais.
Et puis arrivé devant, là, la spermathèque est fermée, l'œuf sort non fécondé et ça donnera un mâle. Et donc c'est les premiers qui vont sortir, ils ont un développement un peu plus court, donc ils sortent. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on les voit, ils sont en ce moment autour des nichoirs, ils sont complètement énervés. Alors, et c'est vrai qu'ils attendent frénétiquement l'arrivée des femelles. Ils sont tous ensemble. Ils ont des antennes un petit peu plus longues et les fesses un peu moins grosses. Et ils ont surtout une espèce de petite touffe de poils blancs, un peu comme une barbe blanche.
Un peu comme vous.
Ce qu'ont pas les femelles. Oui, oui, je ressemble un peu à une spinicornue mâle. Et j'en suis très fier.
Bah oui.
Et donc, on les voit tourner autour des nichoirs. Et là, arrivent les femelles. Et alors, les pauvres, parfois, se retrouvent avec deux, trois, quatre mâles sur le dos. Elles sont parfois toutes écrasées, même si elles sont bien plus grandes qu'eux. Elles n'ont pas du tout leur touffe.
Ouais. Mais elles vont être récompensées. Elles sont récompensées. De vie, en longévité, c'est ça ?
Exactement, parce qu'une fois l'accouplement fait, c'est terminé pour ces messieurs. Ils vont quasiment mourir dans la foulée, quelques jours après. Et c'est la femelle qui va rester environ un mois et demi en vie pour faire ce petit nid dont on vous a parlé, avec ses petites cloisons de terre. On les appelle aussi des abeilles maçonnes, elles font de la terre. Et puis elle-même va mourir dans pas très longtemps. Et les adultes ressortiront l'année d'après.
Donc on dit des fesses pour des abeilles, c'est ça, François Lachère ?
C'est moi qui le dis.
C'était une expression.
C'est ça, l'arrière de l'abdomen.
L'extrémité de l'abdomen. Parce que nous, on veut bien parler. Mais
merci de vous adapter à nous. C'est gentil. François Lasserre, notre entomologiste préféré. Les super pouvoirs des petites bêtes, c'est chez Delachaux et Niesley, avec Gilles Macagnon. Et puis aussi, Nos voisins les insectes, ce livre à flap pour débuster les petites bêtes qui
chez
vivent dans
de la Martinière Jeunesse.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.